Radio Prague, les informations.
La Cour constitutionnelle qui examine le traité de Lisbonne a ajourné son jugement. L'OCDE prévoit un ralentissement économique en Tchéquie. La société KP annonce des licenciements massifs. C'est ce mardi que la Cour constitutionnelle a commencé l'examen du traité de Lisbonne afin de déterminer si certains passages du document qui doit réformer les institutions européennes sont en conformité avec la constitution du pays. La décision n'a pas été prise. La Cour a ajourné à mercredi son jugement. La République tchèque est le dernier des 27 pays membres de l'Union européenne à ne pas encore avoir soumis le traité de Lisbonne au processus de ratification. L'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, prévoit pour l'année prochaine la plus grave récession depuis le début des années 80. Dans ses prévisions publiées ce mardi, elle constate que la récession frappera les États-Unis, la zone euro et le Japon. Elle prévoit également un ralentissement de l'économie tchèque, tandis que cette année, la Tchéquie connaît une croissance de 4,4%. L'année prochaine, elle ne peut espérer que 2,5%. La société KP, porcelaine de Karlovy Vary, se prépare à des licenciements massifs. Elle a déjà annoncé aux agences pour l'emploi des régions de Karlovy Vary et de Ustina de Labem que presque 1800 personnes employées dans plusieurs usines de production de porcelaine sont concernées par ces licenciements. Néanmoins, selon le directeur de la société, Vlastimil Argman, les licenciements en question ne sont pas encore tout à fait sûrs et la société cherche à continuer la production et à sauver ses usines. Le président des sociodémocrates tchèques, Jiří Paroubek, a rencontré ce mardi à Berlin la direction du parti social-démocrate allemand SPD, Franz Müntefering, chef du parti, et Frank-Walter Steinmeier, ministre des Affaires étrangères, désigné comme candidat du SPD au poste de chancelier pour les élections législatives de septembre 2009. Au menu des pourparlers, la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne et le projet d'implantation d'une station radar américaine sur le sol tchèque. C'est à partir de ce mercredi que les hôpitaux régionaux en Bohême centrale auront de nouveaux directeurs. Les nouveaux conseils d'administration des hôpitaux dans cette région ont limogé les directeurs précédents, qui étaient en majorité membres du Parti civique démocrate ODS, qui a perdu ses positions en Bohême centrale lors des dernières élections régionales. Météo. Ce mardi, fête de toutes les Kateřina, Catherine, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie est nuageux, invariable avec quelques faibles chutes de neige par endroit. Les températures de l'après-midi se sont situées entre moins 1 et 3 degrés au-dessus de zéro. Mercredi, le temps en Tchéquie sera nuageux à variable et les températures du jour s'échelonneront de moins 2 à 2 degrés au-dessus de zéro. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Bonjour, l'actualité tchèque, c'est l'examen du traité de Lisbonne qui a commencé mardi devant la Cour constitutionnelle à Brno. Les juges ont reporté à mercredi leur jugement après avoir entendu des représentants du Parlement du gouvernement ainsi que le président de la République qui les a invités à statuer que le traité n'est pas conforme à la constitution tchèque. Plein feu ensuite sur le parti ouvrier. Sur proposition du gouvernement qu'il a qualifié d'extrémiste, le parti devrait être dissous. Beautiful People est la blessure secrète est le titre d'une exposition d'art contemporain qui est à découvrir jusqu'à la mi-janvier à l'hôtel de ville de la vieille ville de Prague. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, je vous souhaite une très bonne écoute. La Cour constitutionnelle de la République tchèque a entamé l'examen du traité de Lisbonne, mardi à Brno. À l'issue du débat, ces 15 juges rendront un jugement sur la conformité ou non du document européen avec l'ordre constitutionnel du pays. Une décision attendue avec grand intérêt et une appréhension certaine par Bruxelles et l'ensemble de l'Europe. Suite à la ratification de la Suède, la semaine dernière, la République tchèque reste en effet le dernier des 27 pays membres de l'Union européenne à ne pas pas encore s'être prononcé sur le traité qui doit réformer les institutions européennes. Mais après avoir notamment entendu le président de la République, Václav Klaus, les représentants du gouvernement et du Parlement, la Cour constitutionnelle a suspendu son jugement à mercredi. Guillaume Narguet.
Un verdict était certes espéré. L'argumentation des partisans et des opposants au traité de Lisbonne s'est même achevée plutôt qu'attendue dès midi. Pour autant, c'est sans surprise que la Cour constitutionnelle a préféré faire patienter tout le monde au moins encore un jour. Appelés à prendre une décision capitale pour l'avenir du document européen et de la position de la République tchèque au sein de l'Union européenne, les juges ont finalement choisi de se laisser encore un peu de temps pour se consulter une dernière fois avant de faire part de leur décision mercredi matin. Aux yeux des États européens qui ont déjà ratifié le traité de Lisbonne, la République tchèque fait figure, au même titre que l'Irlande, de pays problématique. En avril dernier, le Sénat, composé en majorité de membres du Parti civique démocrate actuellement au pouvoir, a demandé à la Cour d'étudier 7 points précis du traité de Lisbonne afin de déterminer si ceux-ci sont en conformité avec la Constitution tchèque. Une tâche qui réclame du temps et qui a donc depuis gelé le processus de ratification. Les eurosceptiques redoutent notamment que l'application du traité de Lisbonne restreigne la souveraineté de la République tchèque à travers, entre autres, le transfert de certaines compétences nationales de Prague à Bruxelles ou encore le mécanisme de décision au Conseil de l'Union européenne. Des points sur lesquels a également insisté Václav Klaus lors de son allocution mardi devant la Cour. Opposant farouche au traité, le chef de l'État a répété que celui-ci modifierait la position de la République tchèque sur l'échiquier international et porterait atteinte à sa souveraineté. Václav Klaus estime que le traité de Lisbonne rapprocherait l'Union européenne d'un État fédéral. Dans le camp opposé, le vice-premier ministre chargé des affaires européennes, Alexandre Vondra, qui représentait le gouvernement, a lui défendu la cause du traité de Lisbonne en assurant qu'il ne limitait en rien la souveraineté de l'État tchèque et qu'il n'était nullement en contradiction avec la Constitution. Si on fait le bilan des plus et des moins, le traité de Lisbonne est une solution acceptable pour la République tchèque, a-t-il toutefois déclaré, preuve de l'euro-réalisme plus que de l'euro-enthousiasme qui règne au sein du cabinet. Reste une question essentielle pour beaucoup. Si la Cour constitutionnelle estime que le traité de Lisbonne est bien en conformité avec la Constitution et si le Parlement le ratifie, le président de la République apposera-t-il lui aussi sa signature en bas du document? Une question à laquelle Václav Klaus a plus ou moins clairement répondu mardi.
C'est une réflexion inutile pour l'instant. J'ai proposé une phrase souvent citée ces derniers jours selon laquelle je pense qu'il n'est pas possible d'exercer une pression sur les Irlandais pour qu'ils changent de décision. Je peux répéter à voix haute une de mes déclarations. Si vraiment tout le monde s'accorde pour dire que le traité de Lisbonne est indispensable pour l'Europe et si l'unique personne qui veut le bloquer est le président tchèque, alors je ne le bloquerai pas. C'est tout.
En clair, s'il doit signer le traité de Lisbonne, le président tchèque sera le dernier à le faire en Europe. Pas forcément la nouvelle espérée à Bruxelles, à un peu plus d'un mois du début de la présidence tchèque de l'Union européenne.
Le cabinet de Mirek Topolánek a soutenu le projet de dissolution du Parti ouvrier, formation d'extrême droite qui sera soumis pour l'examen à la Cour administrative suprême. Dissoudre un parti pour des raisons idéologiques est une démarche qui ne semble pas avoir de précédent en Tchéquie. Alena Gebertova.
Le projet a été élaboré et présenté par le ministre de l'Intérieur, Ivan Langer, qui définit la lutte contre toutes les formes d'extrémisme comme sa priorité. Il explique.
Je suis intimement convaincu qu'il s'agit là d'une bonne décision. S'il est vrai qu'un État démocratique a pour principe de base la concurrence libre des partis politiques, il est d'un autre côté tout aussi vrai que la démocratie doit être capable de se défendre devant ceux qui, sous couvert de cette liberté, impose des idées qui ne sont pas compatibles avec l'ordre juridique et la Constitution.
Cette décision est tombée quelques jours après la tentative des membres et des sympathisants du Parti ouvrier d'attaquer la communauté rome vivant dans un quartier périphérique de la ville de Litvinov, en Bohême du Nord. Un rassemblement qui a finalement été durement réprimé par la police. ce parti ultra-radical s'était fait déjà remarquer auparavant par plusieurs actions de provocation et d'excès, ainsi que par sa déclaration de tolérance zéro du système politique instauré après la chute du régime communiste. Sont connus aussi ses liens avec d'autres groupes néo-nazis, dont le pays et à l'échelle internationale. On écoute à ce sujet l'universitaire Miroslav Mareš, spécialiste des questions d'extrémisme.
À l'heure actuelle, c'est le côté violent du mouvement néo-nazi qui constitue le plus grave problème. On peut s'attendre à ce que l'interdiction du Parti ouvrier ait pour conséquence des actions radicales de force. À mon sens, il est donc désormais particulièrement important d'observer les tendances et les préparations à la violence qui pourraient émerger sur la scène néo-nazie.
Aux dernières élections régionales, le Parti ouvrier a remporté près de 30 000 voix. Même si ce n'est pas beaucoup, c'est le meilleur score que ce parti ait jamais enregistré. Les autorités et le Premier ministre Mirek Topolánek en tête appellent donc à la vigilance, préconisant de mener un débat sur les causes de la montée de l'extrémisme au lieu de chercher des solutions à ses effets. Dans ce contexte, le problème lié à la communauté rome défavorisée et à la cohabitation parfois difficile avec le reste de la population est bien entendu évoqué. En outre, un organe intersectoriel a été créé pour dresser d'ici à la fin de février un tableau des activités néo-nazies dans le pays et de présenter au gouvernement des dispositions législatives adéquates.
Beautiful People et la blessure secrète est une exposition collective qui a ouvert ses portes dans l'ancien hôtel de ville de Prague. Suite aujourd'hui de l'interview réalisée par Anna Kubista avec Hilde Terlink, directrice du Fonds régional d'art contemporain Nord-Pas-de-Calais, d'où proviennent les œuvres exposées. Il a commencé par évoquer les œuvres tchèques qui font partie du fonds.
Jerry Collard, c'est une pièce qui est dans la collection depuis 20 ans, donc c'est une pièce qu'on a achetée il y a quelques années. Et c'est une très belle pièce parce qu'elle va très bien avec l'exposition, parce que c'est un portrait d'un peinture d'Ingres. On sait pas, mais les figures, Ingres a toujours envie de styliser, de faire plus fin, plus maigre, plus élégante les femmes. Et donc Jerry Collard, ce qu'il a fait, c'est il a manipulé à travers des collages l'image pour justement l'élargir, donc le rendre un peu plus rond et vraiment exagéré dans cet effet. Donc c'est vraiment une très belle pièce. Koudelka, par contre, a eu une toute autre trajectoire. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu longtemps en France et qui a travaillé pour l'agence Magnum. Donc, c'est un très grand photographe. Et là, on présente quelques photos qu'il avait prises dans les années 60, début 80, 70, qui parlent un peu de la vie des gitans et tout ça.
D'où aussi la beauté et la blessure, je suppose, pour ce sujet un peu sensible, voilà, des Roms, des communautés Roms.
Tout à fait. Et je crois que la beauté peut se trouver aussi dans tout ce qui est considéré comme pas vraiment esthétique ou pas beau, quoi. C'est là où se cache vraiment la vraie beauté, je crois.
Alors je crois savoir que c'est aussi une exposition itinérante, hein, pour le coup. J'ai vu qu'elle avait déjà été exposée dans pas mal d'endroits, notamment en France, en Alsace.
Tout à fait, parce que le FRAC a cette envie de faire circuler donc de ces expositions. Il était montré en Alsace, à côté de Bâle. L'expo a voyagé en Hollande, à Leeuwarden, donc au nord de l'Hollande. Était montré à côté de Barcelone, au Leida. Donc en Espagne, et là, je crois que c'est la dernière étape, on le présente à Prague. Donc c'est vraiment, donc ça a circulé par l'Europe, partout a eu des critiques très positives et de regards très différents, parce que ça dépendait du pays, de la culture aussi, parce que les normes de beauté et les normes de voir les choses sont différentes dans les pays, même si on part de l'Europe, on a quand même des cultures différentes de voir les choses.
Vous l'avez senti dans les réactions des gens, par exemple?
Oui, parce que par exemple, quand on l'a présenté en Hollande, à ce moment, il y avait un film qui est plutôt une reportage d'une jeune cinéaste qui avait fait un travail autour des opérations de beauté qui sont poussées à l'extrémité. Et donc le film était sorti il y a 2 semaines avant le vernissage, et donc ils ont invité cette personne-là pour le vernissage. Et comme c'était un film à la fois très réaliste et donc est allé vraiment dans l'extrémité des choses, et il y avait un aspect un peu choquant, l'expo pris une autre tournure, et donc tout le travail qui était emmené autour de cette expo était vu de ce point de vue. Donc c'était pas la même chose en Espagne, parce qu'on n'avait pas ce contexte-là. Donc le contexte avait aidé. Donc je me demande comment va réagir le public tchèque à une exposition qui était présentée dans d'autres pays et qui porte quand même un thème très universel, finalement.
Ils auront l'occasion, en gros, de s'en rendre compte eux-mêmes assez longtemps, puisqu'en fait, l'exposition dure presque 2 mois, en fait.
C'est 2 mois, et comme on a fait, il y a aussi une sélection de 6 ou 7 vidéos, donc on a mis en place un système que les gens peuvent s'asseoir et regarder. On peut aussi revenir, redécouvrir les œuvres.
C'était Hilde Terling, directrice du Fonds régional d'art contemporain Nord-Pas-de-Calais, au micro d'Anna Kubishta. L'exposition s'achèvera le 18 janvier 2009. O těch se mi kránu zdá. Kránu, když se sama koupu. Les femmes sont au cœur d'un nouveau compact disque que son auteur, le parolier Michal Horáček, a intitulé Ohrožený druh, espèce en voie de disparition. Cette chansonnière raconte 10 histoires de femmes. La sortie de l'album, il y a un mois, était précédée de 5 années de travaux et de recherches de compositeurs et d'interprètes. Finalement, l'auteur des textes, Michal Horáček, a opté pour des chansonnières moins connues.
Já hledám pro své písničky, pro své vzkazy, ty...
Pour mes chansons, mes messages, je cherche toujours des interprètes, des personnalités qui peuvent y ajouter quelque chose de plus, d'inattendu. Des fois, ce sont des personnalités connues comme Hanna Egerova, et d'autres fois, des personnalités moins célèbres, mais qui savent justement être très vraies dans leur interprétation, et c'est ça qui est le principal, que l'interprète soit convaincant, qu'il nous fasse participer à l'histoire.
De ces 10 histoires de femmes, la plus proche pour Michal Horáček et la plus intéressante du point de vue de l'invention du courage musical est celle chantée par Sidi Tobias, que nous vous proposons d'écouter.
Pláště vlály tiše, vířil sníh, z hloubky dýchala zem. Měl ten houf možná najít nám Řím nebo Jeruzalém, měl za nás doufat v Řím nebo v Jeruzalém. Někdy z dálky hlas volá mi na půl známý, na půl neznámý, zavolá a pak mi oznámí. Vem si závoj tkaný touhami, vem si závoj tkaný touhami. V létě léta vzduchem zlatý hmyz, byl a klobouk značky Fleur de Lis, černý klobouk mužů z lepších dob, skákal strání hop, hop, hop.
C'était les faits et événements. Passons à présent à notre rubrique diffusée une fois tous les 15 jours.
La République tchèque au quotidien. Anna Kubishta.
Bonjour, une émission spéciale aujourd'hui consacrée au Festival du film français dont la 11e édition tire à sa fin. C'est la première partie du diptyque consacré au gangster français Jacques Mérine qui a fait l'ouverture du festival jeudi dernier. Le film était présenté en avant-première et le public tchécophone et francophone a également pu voir dès samedi la deuxième partie du film 3 jours après sa sortie nationale en France. Près de 30 ans après qu'il a été abattu, l'instinct de mort et l'ennemi public numéro 1 s'efforce de retracer le parcours criminel d'un personnage élevé au rang de légende à la fois par ses détracteurs et ses adversaires. titulateur. C'est le réalisateur français Jean-François Richer qui s'est attelé à la tâche de démêler les chevaux de sa vie et de sa personnalité. Pour incarner Mérine, un Vincent Cassel époustouflant du début à la fin qui est entouré par une pléiade d'acteurs français. Jean-François Richer était à Prague pour présenter son film. Radio Prague est allé à sa rencontre.
Est-ce que vous diriez que vous êtes un homme dangereux ?
Dangereux ? Peut-être.
Mais qu'est-ce que vous cherchez en vivant cette vie ?
Quelle question ! L'argent.
Pourquoi faites-vous tout ça ?
Moi, je veux pas rêver ma vie.
Comment vous appelez ?
Sylvia.
J'ai pas envie d'être l'esclave à perpétuité de mon réveil matin.
Dans quels écueils il ne faut pas tomber quand on fait un film sur un personnage tel que Jacques Mérine, ou Mesrine d'ailleurs, il faudrait que vous m'expliquiez si c'est Mérine ou Mesrine.
Alors on dit Mérine, on dit Jacques Mérine, c'est officiel, ça c'est sûr, c'est son nom. Les écueils, on ne doit pas tomber dans quel écueil, on ne doit pas tomber dans la fascination. Moi, on n'a pas pris pour argent comptant tout ce qu'il avait écrit dans son bouquin, parce qu'il écrit sa légende. C'était surtout une provocation qu'il faisait alors qu'il passait au tribunal. Donc fallait avoir conscience qu'il écrivait sa légende. C'était surtout ça, c'est les écueils principaux. Et puis, vu la longueur du tournage, mais là c'est plutôt une façon pratique, c'est que ça a duré 9 mois, il fallait qu'on garde la même énergie le dernier jour. Et 9 mois, un tournage c'est très long. Pour donner un ordre de comparatif, normalement un tournage c'est 2 mois. Donc voilà, 9 mois c'est lourd.
Comment vous est venue l'idée en fait de vous attaquer à ce personnage de Jacques Mérine ? Est-ce que vous vous en souveniez peut-être, je ne sais pas, de lecture, etc. Est-ce que vous avez été vous-même fasciné peut-être par le personnage, ou alors c'était simplement une volonté, voilà, d'aller dans les profondeurs d'une personnalité ambiguë ?
J'ai fait un film aux États-Unis qui s'appelait Assaut sur Central 13, et quand il est sorti, le producteur Thomas Landman m'a demandé si ça m'intéressait de travailler sur ce sujet. Ça tombait bien parce que j'avais déjà envisagé de le faire, sauf que les droits m'appartenaient pas. Donc je suis parti aux États-Unis. Il y avait pas mal de réalisateurs déjà qui étaient sur le projet. Et puis quand je suis revenu, on me l'a proposé. Donc j'ai rencontré Thomas et j'ai trouvé ça assez couillu de le faire. Mais en même temps, c'est pas très original ce que je dis, dans la mesure où je pense que beaucoup de metteurs en scène auraient souhaité faire le film.
Pourquoi ça n'a pas été fait auparavant ?
Pourquoi ? Parce que c'est un sujet difficile, c'est un sujet qui coûte cher, que c'est un film noir, donc on a moins de financement. Enfin, après, c'est très pratique, quoi. C'est beaucoup plus facile de financer une comédie qu'un film noir, quoi. Déjà, ça rapporte moins d'argent. Nous, on a de la chance que c'est un très grand succès en France. Donc ça ouvre des possibilités sur d'autres films de cet acabit. Mais c'était pas gagné, quoi. Moi, je sais que Thomas Langman, il a mis sa chemise, mais concrètement, quoi. C'est-à-dire qu'il a hypothéqué sa maison, et il a même vendu pour qu'on puisse faire le film, quoi. Ouais, bien sûr.
Vous dites 9 mois de tournage, donc un tournage long, mais je suppose que le travail en amont aussi a dû être long.
Je crois que c'est le travail d'enquête le plus sérieux qui a été exécuté sur Jacques Mérine. J'ai tout lu, j'ai vu les lieux, j'ai rencontré les gens. Maintenant, ça me fait même rire quand je lis des bouquins qui sont écrits. C'est juste des erreurs historiques qui sont incroyables, quoi. Mais juste par manque de conscience professionnelle. Pour donner un exemple, on a été chercher son dossier militaire. Alors tout le monde a écrit l'Algérie, traumatisme de Mérine, etc., etc. Le dossier militaire avait été interrogé par une seule personne avant nous. Alors que moi, on l'a interrogé en 2006 ou 2007. Il y a une seule personne qui avait interrogé le dossier militaire de Jacques Mérine, et c'était un juge. C'est pour vous dire le sérieux de la majorité des journalistes qui ont écrit sur Jacques Mérine.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir trouvé certaines clés de compréhension pour ce personnage, hein ? Est-ce qu'il vous semble plus transparent ou finalement plus mystérieux maintenant ?
Transparent, non, c'est un peu fort, mais je le comprends un peu plus, oui. Maintenant, il n'est pas très très compliqué à comprendre, dans la mesure qu'une fois qu'on a compris qu'il fait les choses pour l'adrénaline, on comprend tout. Mais dès son bouquin, il le dit, ça, c'est ce qui lui fait plaisir. C'est autant de gagner de l'argent, c'est la sensation qui... Quand, par exemple, quand il fait une banque, c'est la sensation qu'il éprouve pour ça, ouais.
C'était évident de choisir Vincent Cassel pour jouer ce rôle ?
À un tel point que c'était évident, Vincent Cassel, que si je ne l'avais pas eu, je n'aurais pas fait le film. J'avais prévenu le producteur, je lui ai dit, si je n'ai pas Vincent Cassel, tout le travail là, qu'on a fourni, c'est-à-dire l'écriture des scénarios et d'enquête, on pourra le jeter, parce que je ne le ferai pas, le film. Pour moi, il n'y avait que lui qui pouvait l'incarner.
Jacques Mérine est connu, c'était l'ennemi public numéro un pour les gens enfin, qui ont vécu la période. Hein. Par exemple, les jeunes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont voir le film? Je suppose que c'est un film d'action quand même, malgré tout, un film de gangster. Donc ça attire aussi. Mais est-ce qu'ils connaissent le personnage? Est-ce que ça leur évoque quelque chose ou pas du tout?
Avant le film, ça évoquait quelque chose d'assez flou, mais son nom évoquait ennemi public numéro un, le gangstérisme, et qu'il avait été abattu à place de Clignancourt par l'État, par ses représentants, la police. Donc ça, oui, puis c'est vachement repris dans les rap, dans les textes de hip-hop, Jacques Mérine, assez souvent. En revanche, maintenant, je pense qu'ils ont une idée un peu plus précise du personnage grâce aux deux films. C'est plus un personnage iconographique, il y a autre chose maintenant, je pense qu'ils ont compris un peu plus de choses. Enfin, moi, je suis issu des quartiers de banlieue parisienne, et je me souviens que moi, il y avait un graffiti, un tag plutôt, Mérine, juste au bâtiment, non, dans mon bâtiment d'ailleurs, en bas, là, sur le mur de la poubelle. Il y avait un Mérine dans les années 83, 84.
Simplement pour revenir un petit peu ici au festival, ce film donc est présenté ici en République tchèque. Je suis pas sûre que ça dise beaucoup à beaucoup de gens, j'allais dire, parce que c'était quand même français. Et puis bon, il y avait aussi le rideau de fer à l'époque, donc je sais pas trop si l'information a percé jusque-là. Quelle réception peut avoir par exemple ce film ici? Je pense que les gens vont prendre finalement comme un film d'action sans voir peut-être l'aspect historique.
Je pense pas que c'est un film d'action, c'est plus un film noir. On n'a pas besoin de connaître le Jacques Mérine pour apprécier le film. Ça reste un film, quoi. Il y a une dramaturgie, il y a un personnage auquel on peut s'identifier. Et nous, on aime les westerns, on n'a pas vécu ça. Othello non plus, il n'est pas français. Pourtant, on prend plaisir à regarder le film ou voir la pièce de théâtre. Donc, je pense pas que ça soit un problème de nationalité. Je pense que si le film est bon, ça traverse toutes les frontières.
C'est la fin de cette rubrique, merci de votre attention, à bientôt.
C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention. En attendant de nous retrouver sur les ondes, vous pouvez lire et écouter tous vos programmes sur notre site web www.radio.cz. Au revoir et à bientôt.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz.